Louis Fetzer, vous êtes passé par des domaines totalement différents dans l'industrie. Le docteur Fetzer, qui était déjà végétarien, c'est quelque chose de famille, cette sensibilité au monde animal?
Oui, la sensibilité au monde animal, au bien-être animal, est quelque chose qui a toujours été dans ma famille, qui n'a connu aucun chasseur et aucun pêcheur aussi loin que je sache.
Donc, vous défendez aujourd'hui la cause animale sur plusieurs formes. D'abord, l'objectif du livre qui vient de sortir.
Le livre s'appelle « Faut-il arrêter de manger de la viande ?» En fait, on voit que sur le sujet de l'élevage, puisque c'est de cela qu'on parle, on voit des conflits, on voit des gens qui se battent contre, on voit des gens qui défendent la viande de façon absolue. Ce que j'ai voulu faire, c'est un livre qui donne tous les éléments. Les éléments en matière de santé, parce que ça préoccupe les gens. Les éléments en matière d'environnement, parce que l'impact de l'élevage sur l'environnement est un sujet majeur. Et enfin, les éléments éthiques, de morale, c'est-à-dire le bien-être animal, qui est un sujet auquel je suis très attaché. Et ce livre n'a pas pour objet d'endoctriner, il a pour objet de permettre aux gens de faire leur choix en connaissance de cause et en conscience. Et il se conclut par des conseils. Et le premier de ces conseils, c'est de dire, c'est à vous de choisir de manger de la viande ou pas, maintenant que vous savez tout.
Et donc, il y a dans ce livre les inquiétudes et les bienfaits de la viande. Donc, vous équilibrez les arguments entre les deux.
Je n'essaye pas d'équilibrer des arguments. J'essaye de donner les éléments pour que chacun puisse choisir tous les éléments, en essayant d'écarter les arguments qui n'ont pas de valeur ou pas de poids.
Il y a quand même des recommandations de santé publique. Quand même, on peut être d'accord sur le fait qu'on mange trop de viande pour la santé.
La vérité, et je cite des chiffres, des médecins anglais, dans la revue britannique la plus compétente en la matière, Lancet, regarde les causes de mort liées à l'alimentation. Je ne parle pas à la sous-alimentation. Ils disent qu'il y a 11 millions de morts qui meurent de l'alimentation tous les ans sur la planète. Là-dessus, plus de 3 millions meurent de manger trop de sel. Plus de 3 millions meurent de ne pas manger assez de fibres. Et un peu plus de 20 000 meurent de manger trop de viande. On voit bien que c'est négligeable par rapport aux autres. Je cite le cas du Japon, l'espérance de vie la plus élevée du monde. Ce sont des faibles mangeurs de viande. Mais dans les pays qui ont une espérance de vie très élevée, dans les 5 premiers, mieux que la France, il y a l'Australie qui est le pays où on mange le plus de viande au monde. Donc on voit, et c'est ce que je dis, c'est que sur la viande, l'argument santé n'est pas l'argument déterminant.
Et pourtant, vous parlez de l'antibiorésistance. Il y a quand même des règles qu'il faut respecter.
Alors, il faut, bien sûr, et c'est une des choses que j'affirme avec force dans le livre, c'est qu'il faut, si l'on décide de manger de la viande, préférer la qualité à la quantité. Et que, bien sûr, la viande aux hormones, le veau nourri d'antibiotiques, le poulet qui a pris des produits antibiotiques de croissance, c'est mauvais, grâce au ciel, c'est interdit en France.
Alors, vous parlez également de nourrir la planète, puisque c'est l'argument de ceux qui font de l'élevage en grande quantité. On parle des poulets, par exemple, mais ça parle de bœuf également. Il est dit au Club de Rome que si l'humanité continue à consommer plus que la nature ne peut produire, l'effondrement économique pourrait avoir lieu dans les années 2030. C'est demain, ça?
C'est demain. Cela dit, il faut reconnaître aussi que les prévisions du Club de Rome ont été démenties, comme celles d'ailleurs de Malthus à la fin du XVIIIe siècle, qui prévoyait dans une planète qui, à l'époque, comprenait 1 milliard d'habitants, que l'humanité n'arriverait plus à se nourrir. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards et nous nous nourrissons mieux que du temps de Malthus. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la viande est aujourd'hui un privilège des pays riches et qu'on voit que la consommation de viande chez les riches diminue un peu, mais que chez les pays en développement, elle s'accroît massivement. Et donc, il faut un rééquilibrage. Si tout le monde suit un modèle américain ou australien, ça ne marche pas. Et donc, l'équilibre, c'est que dans les pays riches, on consomme moins de viande, parce que dans les pays en développement et les pays pauvres, on en consommera plus. Aujourd'hui, certains pays consomment 20 fois moins de viande par habitant que la France, les États-Unis ou les pays riches.
Je reprends un petit peu en survol le livre qui est vraiment passionnant. J'espère qu'il y aura un maximum de lecteurs. Il y a une concurrence entre l'agriculture et l'élevage, notamment la culture du soja. C'est quelque chose que vous citez également.
Alors, bien sûr, l'élevage, il peut se faire avec des produits que l'homme ne consomme pas. Quand vous avez un élevage sur des prés non cultivables, ça ne concurrence pas l'agriculture. Mais il y a les animaux, et notamment les animaux de l'élevage industriel, ne mangent pratiquement que des produits que l'homme pourrait consommer. Et donc là, il y a une vraie concurrence. Et c'est pour ça que dans ce livre, ça fait partie des sujets que j'affirme avec force, je plaide pour une agriculture fermière et pas une agriculture industrielle. Cette agriculture fermière existe encore en France, mais elle est menacée. Elle est menacée par une concurrence mondiale, mais aussi par une concurrence intra-européenne. La France, au sein de l'Europe, est le pays qui a l'agriculture la plus proche de la nature. Et je pense que c'est un équilibre de l'agriculture française qu'il faut sauvegarder.
Il y a un moment, vous parlez de la répartition des richesses et du déséquilibre entre le Nord et le Sud, notamment. Et il y a une phrase qui m'a frappé, c'est que les habitants du Sud dépensent entre 50 et 80% de ses revenus pour acheter sa nourriture. Et cette dépense, elle est de 10 à 20% pour les habitants des pays du Nord.
C'est une constante. En France, il y a 40 ou 50 ans, les Français dépensaient 40% de leurs revenus en moyenne pour acheter leur nourriture. Mais forcément, plus vous avez des ressources, plus votre consommation se diversifie. Et donc les deux besoins essentiels, se nourrir et se loger, ont une part qui se réduit dans votre consommation totale.
Et vous parlez bien entendu du gaspillage alimentaire qui est un vrai problème parce que c'est quand même dommage que les gens qui souffrent dans le monde, et c'est pas d'hier, et qu'aujourd'hui on gâche, dans, notamment les pays du Nord, beaucoup de choses.
Alors le gaspillage alimentaire, il prend beaucoup de formes. La forme que l'on voit, la nourriture que l'on jette, les biens que l'on détruit pour monter les prix, mais il prend des formes plus insidieuses. Par exemple, aujourd'hui, les gens mangent du poulet, mais ils ne mangent que les blancs. Et donc, une partie de l'animal n'est pas consommée. Quand ils mangent du bœuf, ils mangent certains morceaux, pas d'autres. Et donc, une partie de ces animaux qu'on sacrifie n'est pas utilisée. Et ça, c'est un gâchis qui est à la fois écologique, financier, mais aussi humain.
On va parler, on va terminer par la planète. Les gaz à effet de serre sont issus pour partie et beaucoup sur l'élevage. Et on parle beaucoup de méthane. On a de la substitution. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut réduire ou changer de nourriture?
Alors, les bovins qui digèrent de l'herbe émettent du méthane. Et ça, c'est absolument inévitable. Cela dit, ces bovins aussi absorbe de l'herbe qui a absorbé du gaz carbonique. Donc il y a un circuit qui n'est pas facile à mesurer exactement et d'ailleurs qui aujourd'hui n'est pas mesuré de façon exacte. On peut penser toutefois que, au fond, l'alimentation de bovins qui pèsent dans des prés est moins mauvaise pour les gaz à effet de serre que l'alimentation de bovins qui prennent des aliments industriels. Le poulet, on le sait, émet moins de gaz à effet de serre pour une quantité donnée de viande que le bovin. Cela dit, le méthane, le côté positif, il est double. D'une part, on peut récupérer d'une certaine façon le méthane. C'est pas facile, mais ça se fait. Et éviter qu'il ne s'émette dans l'atmosphère. Le second point, c'est que autant le gaz carbonique, quand vous l'émettez dans l'atmosphère, il y reste 100 ans. Le méthane, lui, n'y reste que 10 ans. C'est-à-dire que si vous réduisez les émissions de méthane, l'effet se fait voir à vue humaine. Si vous réduisez les effets d'émissions de gaz carbonique, eh bien, vous n'aurez la vraie diminution qu'au bout de 100 ans. Tout ce qu'on peut faire d'ici là, c'est réduire la croissance.
On va terminer par l'éthique et le bien-être animal. C'est quelque chose que vous avez à cœur. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de votre... C'est grand-oncle, hein, je crois.
Grand-oncle.
De grand-oncle sur le fait qu'il était précurseur et que vous avez probablement été nourri un petit peu par ça. Qui était-il?
Bon, Albert Schweitzer, c'était quelqu'un de très impressionnant, que j'ai bien connu. Il est mort en 65, j'avais un peu plus de 20 ans. C'était quelqu'un de très impressionnant, avec des convictions très fortes. Et sa philosophie, c'était le respect de la vie. Le respect de la vie humaine, bien sûr, il était médecin, mais aussi le respect de toute vie sensible et des animaux. Donc, c'était vraiment sa philosophie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a été un lanceur d'alerte. En 1908, en chaire, dans une église, il fait un sermon sur la condition des animaux d'abattoir. Et on voit le lien avec les lanceurs d'alerte d'aujourd'hui, L214 par exemple, qui font prendre conscience aux gens des problèmes. Et c'est déjà ce que disait Albert. Au fond, les gens ne regardaient pas. Et comme ils ne regardaient pas, ils n'essayaient pas de faire progresser les choses. Et aujourd'hui, les gens voient, grâce à la télévision, grâce à la radio, grâce à l'Internet, ils voient les problèmes. Et donc, la volonté d'améliorer les choses est beaucoup plus forte.
Vous citez en page 80, on reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite ses animaux. Et c'est signé Gandhi.
C'est vrai. C'est vrai, au fond, on regarde dans toute l'histoire le monde dont les gens se sont sentis responsables, qu'ils ont considéré comme intéressant, s'est élargi. À un certain moment, c'était la famille, la classe sociale avec laquelle on était solidaire, le pays dont on se sentait. Maintenant, les gens sont sensibles à ce qui se passe dans le monde entier, mais la sensibilité s'étend à tous, et notamment à l'ensemble du vivant.
Alors, il y a la Déclaration des droits de l'animal, il y a la Fondation du droit animal, dont vous êtes le président. Est-ce qu'on peut parler de votre action ?
Bon, au fond, la Fondation droit animal, éthique et science, c'est important, essaye de faire que les progrès de la morale, les progrès de la science, se traduisent dans des progrès du droit. C'est ça l'ambition de cette fondation. Ce qu'on reconnaît aujourd'hui, c'est que le progrès du droit, il est lent. La mondialisation le rend cela difficile parce qu'elle crée un conflit avec l'économie. Le droit européen, bon, il faut un accord à 27, c'est pas facile. Et si on fait du droit purement national, on crée des problèmes de concurrence. Et donc, on essaye d'avancer sur deux plans. D'abord, faire partager l'idée que les animaux ont des droits et que nous avons des devoirs à l'égard d'eux et donc qu'il faut les protéger d'un certain nombre de choses, qu'il s'agisse des animaux sauvages, des animaux d'élevage ou de tous les animaux. Et puis, de faire progresser ce que j'appelle le droit souple. Le droit souple, c'est ce qui permet aux consommateurs, aux citoyens, de prendre un problème en main. C'est ce que nous avons fait à la LFDA en lançant l'étiquetage bien-être animal. Pourquoi ? Parce qu'un éleveur qui s'attache au bien-être de ses animaux, ça lui coûte plus cher qu'un éleveur industriel qui est indifférent au bien-être des animaux. Et donc, il faut qu'il puisse être rémunéré, parce qu'autrement, la contrainte économique... Et c'était d'ailleurs déjà quelque chose que signalait Albert Schweitzer. Il disait dans les abattoirs, ce n'est pas la méchanceté des hommes qui fait la souffrance animale, c'est la pression économique. Et donc, il faut que le consommateur, en acceptant de payer plus cher pour un produit de meilleure qualité et qui respecte le bien-être animal, permette à l'éleveur et à la chaîne de production eux-mêmes de respecter ce bien-être animal.
Est-ce qu'on peut s'attarder 30 secondes sur votre rencontre, le rapport que vous aviez avec ce prix Nobel qui a marqué l'humanité ? Vous en gardez quoi comme principal souvenir ?
Vous savez, je l'ai dit, j'étais jeune, c'était un homme qui était âgé. Il était à la fois très impressionnant, parce que une personnalité rayonnante, très charismatique, et très attentif, très gentil. On voit quelquefois des grands personnages qui sont distants, brutaux, et qui n'ont pas d'empathie. Et lui avait ces deux qualités à la fois.
Vous avez pris un certain nombre d'exemples, des exemples qui peuvent être... vous êtes un peu un lanceur d'alerte quelque part, parce que vous, Vous parlez de la ferme aux millions de poulets, du plateau des 1000 vaches. Ce sont des exagérations. C'est l'économie, là aussi, qui est en cause.
La ferme aux millions de poulets, c'est l'exemple absolu d'élevage industriel. 1 million de poulets qui ne voient jamais la lumière du jour, qui vivent 35 jours pour arriver à un abattoir intégré au bâtiment, qui abat 33 000 poulets par jour, et 3 hommes pour s'occuper de cela. Est-ce qu'il y a un lien entre l'homme et le vivant dans un tel système ?
Vous parlez du saumon d'élevage ?
Oui. D'abord, au fond, tout le monde sait qu'un lapin, qu'un poulet, qu'une vache, est-ce un être sensible ? Tout le monde ne sait pas assez que les poissons ressentent la douleur. Et donc, qu'il faut aussi être sensible, s'intéresser au bien-être des poissons. Ça paraît moins naturel. Mais c'est important de faire prendre conscience de cela. Et puis aussi, on le sait, le poisson d'élevage, c'est non seulement des conditions de vie difficiles, mais c'est des problèmes de santé publique et d'impact sur l'environnement graves. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut aussi contrôler et maîtriser.
Donc, on voit la condition animale, où vous avez extrêmement, d'une façon très riche, décrit les troubles générés par l'élevage intensif, etc., le piquage, le cannibalisme, la codophagie, des choses qu'on ne connaît pas bien. Mais vous terminez votre livre d'une façon très optimiste, puisque vous donnez 10 conseils pour manger mieux.
Oui, ce livre, il comporte 90% de description des faits, et il se conclut, c'est la loi du genre, par 10 conseils. Et les conseils, c'est d'abord de se tourner vers les gens et de dire « c'est vous qui choisissez ». Et puis, quand même, de leur donner quelques éléments pour orienter leur choix. Éviter le gaspillage, respecter une alimentation équilibrée, quel que soit leur choix en matière de viande. Aller vers la proximité, c'est important. Je crois que de faire circuler dans la planète sur 10 ou 15 000 kilomètres des légumes, des animaux, des biens de toutes sortes, c'est pas bon. Et je pense que pour l'agriculture, pour la nourriture, l'idée de la proximité est tout à fait importante.